Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans le Web3 ou dans les cryptos, si vous considérez ces actifs comme des actifs comme les autres. Amaury de Tonquédec, au décryptage avec nous. Bonjour cher Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
De l'équipe BFM Business, de l'équipe Tout pour investir et surtout de l'équipe BFM Crypto, le club. Émission qui vous fait vivre en direct tous les jours à 15h, à 21h30 et puis en podcast à n'importe quelle heure, l'univers crypto. On a une question d'Amadou qui nous a écrit cette semaine pour nous dire: que se passe-t-il? Pourquoi le bull run du Bitcoin n'a pas encore commencé? Qu'est-ce qui se passe, Amaury?
Il faut être patient, Amadou. Le halving était à 15 jours. D'habitude, c'est le quatrième. À chaque fois, dans les précédents halving, la hausse post-halving a mis une centaine de jours à arriver. Là, on n'est qu'à 15 jours. Donc, ça va prendre un certain temps. Je pense qu'il y aura encore quelques semaines de correction. Il ne faut pas oublier que le halving, c'était la division par deux de la récompense en Bitcoin donnée aux mineurs. Donc là, les mineurs qui étaient un peu juste avant le halving, ils sont un petit peu dans le dur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tri qui est en train d'être fait. Et ce tri, entre guillemets, c'est potentiellement le fait que des mineurs soient obligés de vendre leurs réserves en Bitcoin. Et comme les mineurs ont gagné beaucoup de Bitcoin dans les 4 années précédentes, ça peut créer une pression vendeuse, ce qui explique, en partie, pas uniquement ça, mais en partie, la baisse du cours du Bitcoin. Donc voilà, il est encore possible qu'on ait quelques semaines de baisse ou alors de stabilisation du cours. Et après, encore une fois, il n'y a pas que le halving qui compte, il y a aussi les événements macroéconomiques. On en parle souvent dans cette émission, Lorraine. La banque centrale américaine, donc la Fed, qui maintient ses taux pour l'instant, c'est pas très bon pour les actifs risqués. Il faudra attendre, je pense, que la Fed commence à baisser ses taux pour que les actifs risqués dont font partie le Bitcoin et les cryptos reprennent des couleurs.
Donc ça voudrait dire qu'on attend jusqu'à septembre, peut-être même décembre?
Oui, potentiellement, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense qu'à partir de septembre, octobre, ça devrait aller mieux, je dis bien devrait.
Le Bitcoin se négocie, alors on se parle autour des 59 000 dollars. Le Bitcoin à 100 000 dollars, on tâchait de se dire hier, c'est pour quand? Vous y croyez encore? Rappelez-nous pourquoi vous y croyez.
J'y crois parce que, en fait, déjà, c'est la première fois que le Bitcoin a battu son record historique avant son halving. Donc on rappelle, c'était un peu plus de 73 000 dollars.
C'était mi-mars.
Voilà, c'est ça. Avec les ETF qui sont arrivés et les bonnes nouvelles, entre guillemets, qui devraient arriver, notamment du côté des baisses de taux, qui arriveront peut-être plus tard que prévu, mais qui devraient arriver. Voilà, quand on voit déjà comment le marché est capitalisé, l'institutionnalisation croissante de tout ce marché, oui, je pense qu'on devrait avoir les 100 000 dollars dans quelques mois. C'est possible qu'on les ait avant le 31 décembre 2024, mais ça, on verra. Encore une fois, ce n'est pas inconscient un investissement. Mais je pense que pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de possible et ça ne me surprendrait pas.
C'est quelque chose de possible. Vous nous rappeliez, au mois de janvier, plusieurs institutions ont lancé un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. C'était, mi-janvier, début janvier, 11 janvier, je crois. Hong Kong a lui-même lancé ce genre de produit. On rappelle que Hong Kong est la seule partie d'Asie, parce que voilà, Hong Kong, ça n'est pas la Chine, exactement, à avoir autorisé ces ETF Bitcoin et Ether dans le sillage des États-Unis. C'était cette semaine. Et pourtant, la collecte n'est pas là où on l'attendait. Il y a eu seulement 11 millions de dollars d'inflow. Et le Bitcoin, en même temps, cette semaine, tombait en dessous des 60 000 dollars. Comment on explique ce manque d'engouement?
Bon, que vous l'avez dit, Lorraine, il y a 4 mois, on a eu des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Il y a 15 jours, on a eu des ETF Bitcoin Spot et même Ethereum Spot à Hong Kong. Effectivement, ça a démarré moins fort qu'aux États-Unis. À Hong Kong, on a eu la première journée 12 millions de dollars de volume, ce qui est 378 fois moins important que la première journée des volumes qu'on a eu pour les 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est que le marché des fonds dédiés aux cryptos en Asie-Pacifique est de 244 millions de dollars. Alors qu'en Amérique du Nord, c'est 73 milliards de dollars. Donc là, clairement, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Et en plus, pour l'instant en tout cas, les investisseurs chinois, qui sont nombreux, ne peuvent pas accéder aux ETF hongkongais. Maintenant, la partie n'est pas perdue pour les ETF hongkongais, parce qu'ils ont quand même deux avantages. Le premier, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de volume sortant très fort, comme on a eu sur les ETF aux États-Unis, avec le fameux GBTC de Grayscale, c'est un peu compliqué, mais qui était un Bitcoin Trust transformé en ETF. et qui a connu et qui connaît encore aujourd'hui 10 milliards de dollars de volume net sortant depuis le mois de janvier 2024. Mmh. Donc c'est ça qui en partie a fait beaucoup baisser et qui a fait du mal, entre guillemets, beaucoup de flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. A priori, il n'y aura pas ça du côté de Hong Kong. Premier point. Et deuxième point, selon une étude de UOB, donc c'est une plateforme d'échange crypto qui a été créée en Chine, l'Asie est le continent qui contient le plus grand nombre d'utilisateurs de crypto. On en compterait 130 millions contre 50 millions en Amérique du Nord. Donc potentiellement, finalement, il y a quand même un marché intéressant du côté de l'Asie. Donc la partie n'est pas perdue pour les ETF Bitcoin et Ethereum Spot hongkongais.
Il en reste sous la pédale, c'est ce que vous nous dites. Alors on peut quand même signaler, hein, pour ceux qui suivent attentivement ces produits, que le lancement d'ETF Bitcoin et Ether Spot avec 11 ou 12 millions d'inflows ont réalisé un meilleur départ que les ETF à terme qui ont été lancés en 2022.
C'est vrai.
Donc c'est peut-être un signal qui alimente votre analyse, Amaury, qu'il en reste sous la pédale pour cet intérêt, pour cet engouement des cryptos en Asie. Voilà. On vous retrouve, Amaury, tous les jours à 15h30, dans BFM Crypto, le club. Le grand moment de cette semaine dans l'actu crypto que vous retenez et qu'il faut retrouver en podcast ou en replay dans votre émission.
Ah bah, il y a quand même eu l'arrestation de Changpeng Zhao, hein, l'ex numéro 1 de la première plateforme d'échange au monde, Binance. Voilà, qui a été, enfin arrêté. Non, il était déjà arrêté, pardon, mais il a été condamné à 4 mois de prison et il en risquait 36.
Il s'en sort bien.
Oui, il s'en sort plutôt bien. En tout cas, voilà, on continuera d'analyser, notamment on en a parlé lundi, mais on continuera évidemment d'analyser cette peine de prison et un peu comment les choses risquent de se passer dans les prochaines semaines.
190 millions d'utilisateurs revendiqués de Binance. Merci beaucoup, Amaury. Aux manettes également de Tout pour Investir, dont je salue le travail au quotidien, et à toute notre équipe, à Yann et Sébastien qui nous ont accompagnés tous les jours et qui nous supportent. Merci à vous, à toute l'équipe.